Dans l'embrasure d'une fenêtre, Isabelle chuchotait avec Robert d'Artois. Mais l'inquiétude qui se lisait sur les traits de la reine n'était pas inspirée par la funèbre circonstance. Méfiez-vous de Stapledon, Robert, murmurait-elle. Cet évêque est la pire créature du diable, et Édouard ne l'a envoyé que pour causer nuisance à moi ou à ceux qui me soutiennent. Il n'avait rien à faire ici ce jour-là, et pourtant il s'est imposé, parce qu'il a reçu mission, dit-il, d'escorter partout mon fils. Il m'épie. La dernière lettre qui m'est parvenue avait été ouverte et le cachet recollé. On entendait la voix de Charles de Valois.
Item, je lègue à ma compagne, la comtesse, mon rubis que ma fille de Blois me donna. Item, je lui laisse la nappe brodée qui fut à la reine Marie, ma mère.
Tous les yeux indifférents ou distraits durant l'énoncé des donations pieuses se remirent à briller parce qu'il était question des bijoux. La comtesse de Blois arquait les sourcils et marquait quelques désappointements. Son père aurait bien pu lui faire retour de ce rubis qu'elle lui avait offert.
« Item, le reliquaire que j'ai de Saint-Édouard. »
En entendant le nom d'Édouard, le jeune prince d'Angleterre releva ses longs cils. Mais non. Le reliquaire aussi allait à Mahaut de Châtillon.
« Item, je laisse à Philippe, mon fils aîné, un rubis et toutes mes armes et harnois, excepté un haubert d'armure qui est du travail d'Acre et l'épée avec laquelle le seigneur d'Harcourt combattit, que je laisse à Charles, mon fils second. Item, à ma fille de Bourgogne, femme de Philippe, mon fils, la plus belle de toutes mes émeraudes. »
Les joues de la boiteuse rosirent un peu, et elle remercia d'une inclination de tête qui parut une indécence. On pouvait être assuré qu'elle exigerait l'examen des émeraudes par un expert pour reconnaître la plus belle.
« Item, à Charles, mon fils second, tous mes chevaux et palefrois, mon calice d'or, un bassin d'argent et un missel. »
Charles d'Alençon se mit à pleurer, bêtement, comme s'il ne prenait conscience de l'agonie de son père et de la peine qu'elle lui causait qu'au moment où le moribond le citait.
« Item, je laisse à Louis, mon fils troisième, toute ma vaisselle d'argent. »
L'enfant se tenait collé à la jupe de Mahaut de Châtillon. Celle-ci lui caressa le front d'un geste tendre.
Item, je veux et ordonne que tout ce qui demeurera de ma chapelle soit vendu pour faire prier pour l'âme de moi. Item, que tous les effets de ma garde-robe soient distribués aux valets de ma chambre.
Un remous discret se fit près des fenêtres ouvertes et les têtes se penchèrent. Trois litières venaient d'entrer dans la cour du manoir, au sol couvert de paille pour étouffer le pas des chevaux. D'une grande litière ornée de sculptures dorées et de rideaux brodés des châteaux d'Artois, la comtesse Mahaut, pesante, monumentale, les cheveux tout gris sous son voile, descendait ainsi que sa fille, la reine douairière Jeanne, veuve de Philippe le Long. La comtesse était encore accompagnée de son chancelier, le chanoine Thierry d'Irson, et de sa dame de parage, Béatrice, nièce de ce dernier. Mahaut arrivait de son château de Conflans près de Vincennes, d'où elle ne sortait guère en ces temps pour elle hostiles. La seconde litière, toute blanche, transportait la reine douairière Clémence, veuve de Louis Hutin. De la troisième litière, modeste, au simple rideau de cuir noir, sortait avec quelques peines et aidé seulement de deux valets, Messer Spinello Tolomei, capitaine général des Lombards de Paris. Ainsi s'avançaient dans les couloirs du manoir deux anciennes reines de France, deux jeunes femmes du même âge, 32 ans, qui s'étaient succédées au trône, toutes deux vêtues de blanc entièrement selon l'usage établi pour les reines veuves, toutes deux blondes et belles, surtout la reine Clémence, et paraissant un peu comme deux sœurs jumelles. Derrière elles, les dominants des épaules, marchait la redoutable comtesse Mahaut, dont chacun savait, mais sans avoir eu le courage d'en porter témoignage, qu'elle avait tué le mari de l'une pour que l'autre régnât. Et puis enfin, traînant la jambe, poussant le ventre, les cheveux blancs épars sur son col et les griffes du temps plantées dans les joues. Le vieux Ptolémée, qui avait été, de près ou de loin, mêlé à toutes les intrigues. Parce que l'âge ennoblit tout et parce que l'argent est la vraie puissance du monde, parce que Monseigneur de Valois, sans Ptolémée, n'aurait pu épouser autrefois l'impératrice de Constantinople, parce que sans Ptolémée, la cour de France n'aurait pu envoyer Bouville chercher la reine Clémence à Naples, ni Robert d'Artois soutenir ses procès et épouser la fille du comte de Valois, parce que sans Ptolémée, la reine d'Angleterre n'aurait pu se trouver ici avec son fils, on accorda au vieux Lombard qui avait tant vu, tant prêté et s'était beaucoup tu, les égards qui ne vont qu'au prince. On se tassait contre les murs, on s'effaçait pour libérer la porte. Bouville se mit à trembler quand Mao le frôla. Isabelle et Robert d'Artois échangèrent une interrogation muette. Ptolémée, entrant avec Mao, cela signifiait-il que le vieux renard toscan travaillait aussi pour le compte de l'adversaire? Mais Ptolémée, d'un sourire discret, rassura ses clients. Il ne fallait voir dans cette arrivée simultanée qu'un hasard de route. L'entrée de Mao avait créé une gêne dans l'assistance. Valois s'arrêta de dicter en voyant apparaître sa vieille et géante adversaire, poussant devant elle les deux veuves blanches comme deux agnelles qu'on mène paître. Et puis Valois aperçut Ptolémée. Alors sa main valide, où brillait le rubis qui allait passer au doigt de son fils aîné, s'agita devant son visage, et il dit
« Marigny ! Marigny !»
On crut qu'il perdait l'esprit, mais non. La vue de Ptolémée lui rappelait leur commun ennemi. Sans l'aide des Lombards, jamais Valois ne serait venu à bout du coadjuteur. On entendit alors la grande Mao d'Artois dire
« Dieu vous pardonnera, Charles, car votre repentance est sincère. »
« La gueuse !»
prononça Robert d'Artois, assez haut pour être entendu de ses voisins.
« Elle ose parler de remords. »
Charles de Valois, négligeant la comtesse d'Artois, faisait signe aux Lombards d'approcher. Le vieux Siennois vint au bord du lit, souleva la main paralysée, la baisa, et Valois ne sentit pas ce baiser.
« Nous prions pour votre guérison, monseigneur, » dit Ptolémée. Guérison.
Le seul mot de réconfort que Valois eut entendu parmi tous ces gens dont aucun ne mettait sa mort en doute et qui attendait son dernier soupir comme une nécessaire formalité. Guérison. Le banquier lui disait-il cela par complaisance ou bien le pensait-il vraiment? Ils se regardèrent, et dans le seul œil ouvert de Ptolémée, cet œil sombre et rusé, le moribond vit une expression de complicité. Un œil enfin d'où il n'était pas éliminé.
« Item, item !»
reprit Valois en pointant l'index vers le notaire.
« Je veux et commande que toutes mes dettes soient payées par mes enfants. »
Ah ! C'était un beau legs qu'il faisait par ces mots à Ptolémée, et plus lourd que tous les rubis et tous les reliquaires. Et Philippe de Valois, et Charles d'Alençon, et Jeanne la Boiteuse, et la comtesse de Blois prirent tous la même mine déconfite. Il avait bien besoin de venir, ce Lombard.
« Item, à Aubert de Villepion, mon chambellan, une somme de 200 livres tournois. À Jean de Cherchemont, qui fut mon chancelier avant d'être celui de France, autant. À Pierre de Montguillon, mon écuyer. »
Voilà que Monseigneur de Valois était repris par ce goût de largesse qui lui avait si fort coûté tout au long de sa vie. Il voulait récompenser royalement ceux qui l'avaient servi. 200, 300 livres... Ce n'était point legs énorme, mais lorsqu'il en existait 40, 50 à la file et qui s'ajoutaient aux legs religieux, l'or du pape, déjà bien écorné, n'allait pas y suffire, ni une année de revenus de tout l'apanage valois. Il serait donc prodigue, Monseigneur Charles, jusqu'après son trépas. Mao s'était rapproché du groupe anglais. Elle avait salué Isabelle d'un regard où luisait une vieille haine, sourit au petit prince Édouard comme si elle l'eût voulu mordre, et enfin, elle avait regardé Robert.
« Mon bon neveu, te voilà bien en peine. C'était un vrai père pour toi, » dit-elle à voix basse.
« Et pour vous aussi, ma bonne tante, c'est là un coup navrant, »
répondit-il de même. Vous comptez à peu près le même nombre d'ans que Charles, l'âge où l'on meurt. Dans le fond de la salle, on entrait, on sortait. Isabelle s'aperçut soudain que l'évêque Stapledon avait disparu, ou plus exactement qu'il était en train de disparaître, car elle le vit qui franchissait la porte de ce mouvement onctueux, glissant et assuré qu'ont les ecclésiastiques pour traverser les foules. Et le chanoine d'Hirson, le chancelier de Mahaut, filait dans son sillage. La géante suivait du regard cette sortie, elle aussi, et les deux femmes se surprirent dans leur commune observation. Isabelle aussitôt se posa d'inquiètes questions. Que pouvait avoir à se dire Stapledon, l'envoyé de ses ennemis, et le chancelier de la comtesse? Et comment se connaissaient-ils alors que Stapledon était arrivé de la veille? Les espions d'Angleterre avaient travaillé du côté de Mahaut, ce n'était que trop évident. « Elle a toute raison de vouloir se venger et me nuire, » pensait Isabelle. « J'ai dénoncé autrefois ses filles. Ah, comme je voudrais que Roger fût là. Que n'ai-je insisté pour qu'il vienne ?» Les deux ecclésiastiques, en vérité, n'avaient guère eu de peine à se joindre. Le chanoine d'Hirson s'était fait désigner l'envoyé d'Édouard. « Très révérend et saint évêque d'Exeter ?» lui avait-il demandé en latin. « Je suis chanoine et chancelier de la comtesse d'Artois. » Ils avaient mission de s'aboucher à la première occasion. Cette occasion venait de se présenter. À présent, assis côte à côte dans une embrasure de fenêtre au retrait de l'antichambre et leur chapelet en main, ils conversaient en latin comme s'ils se fussent envoyés les réponses des prières pour les agonisants. Le chanoine d'Hirson possédait la copie d'une très intéressante lettre d'un certain évêque anglais qui signait haut, adressée à la reine Isabelle. Lettre qui avait été dérobée à un commerçant italien pendant son sommeil dans une auberge d'Artois. Cet évêque haut conseillait à la destinataire de ne point revenir pour l'heure, mais de se faire le plus de partisans qu'elle pourrait en France, de réunir 1000 chevaliers et de débarquer avec eux pour chasser les Despenser et le mauvais évêque Stapledon. Thierry d'Hirson avait sur lui cette copie. Monseigneur Stapledon souhaitait-il en prendre connaissance ? Un papier passa du camail du chanoine aux mains de l'évêque, qui y jeta les yeux et y reconnut le style habile, précis, d'Adam Orleton. Si Lord Mortimer, ajoutait celui-ci, prenait le commandement de l'expédition, toute la noblesse anglaise se rallierait en quelques jours. L'évêque Stapledon se rongeait le coin du pouce. Le baron Mortimer vit ici en concubinage ouvert avec la reine Isabelle, précisa Thierry d'Hirson en latin. L'évêque d'Exeter en voulait-il des preuves ? Hirson lui en fournirait quand il voudrait. Il suffisait d'interroger les serviteurs, de faire surveiller les entrées et sorties du palais de la cité, de demander simplement leur avis aux familiers de la cour. Stapledon enfouit la copie de la lettre dans sa robe, sous sa croix pectorale. Monseigneur de Valois, pendant ce temps, avait nommé les exécuteurs de son testament. Son grand sceau, fait d'un semis de fleurs de lys, entouré de l'inscription « Caroli regis Franciae filii, comitis Wallesi et Andegawiae, s'était imprimé dans la cire coulée sur les lacets qui pendaient au bas du document. L'assistance commençait à évacuer la chambre. Monseigneur, puis-je présenter à votre haute et sainte personne ma nièce Béatrice, damoiselle de parage de la comtesse ? Dit Thierry d'Hirson à Stapledon en désignant la belle fille brune au regard coulant et aux hanches ondoyantes qui s'approchait d'eux. Béatrice d'Hirson baisa l'anneau de l'évêque, puis son oncle lui dit quelques mots à voix basse. Elle rejoignit alors la comtesse Mahaut et lui murmura « C'est chose faite, madame ». Et Mahaut, qui se tenait toujours à proximité d'Isabelle, avança sa grande main pour caresser le front du jeune prince Édouard. Puis chacun repartit pour Paris. Robert d'Artois et le chancelier, parce qu'ils avaient à veiller aux tâches du gouvernement, Ptolomeï, parce que ses affaires l'appelaient, Mahaut, parce que sa vengeance mise en route, elle n'avait plus rien à faire là, Isabelle, parce qu'elle désirait au plus tôt parler à Mortimer, les reines veuves, parce qu'on n'eût pas su où les loger. Même Philippe de Valois eut à regagner Paris, pour l'administration de ce gros comté dont il était déjà le tenant de fait. Il ne resta auprès du moribond que sa troisième épouse, sa fille aînée, la comtesse de Hainaut, ses plus jeunes enfants et ses proches serviteurs. Guère plus de monde qu'autour d'un petit chevalier de province, alors que son nom et ses actes avaient tant agité le monde, depuis les bords de l'océan jusqu'aux rives du Bosphore. Et le lendemain, Monseigneur Charles de Valois respirait toujours, et le surlendemain encore. Le connétable gaucher avait vu juste. La vie continuait à se battre dans ce corps foudroyé. Toute la cour, pendant ces jours-là, se transporta à Vincennes pour l'hommage que le jeune prince Édouard, duc d'Aquitaine, rendit à son oncle Charles le Bel. Puis, à Paris, une pièce d'échafaudage chut tout près de la tête de l'évêque Stapledon. Une passerelle, le lendemain, se rompit sous les fers de la mule du clerc qui le suivait. Un matin qu'il s'éloignait de son logis à l'heure de la première messe, Stapledon se trouva nez à nez dans une rue étroite avec Gérard de Halspaille, l'ancien lieutenant de la Tour de Londres, et le barbier Ogle. Les deux hommes paraissaient se promener, insouciants. Mais sortons de chez soi à pareille heure, simplement pour entendre chanter les oiseaux. Dans une encoignure se tenait aussi un petit groupe d'hommes silencieux, parmi lesquels Stapledon crut reconnaître le visage chevalin du baron Maltravers. Un convoi de maraîchers qui encombra la chaussée permit à l'évêque anglais de regagner précipitamment sa porte. Le soir même, sans avoir fait aucun adieu, il prenait la route de Boulogne pour aller secrètement s'embarquer. Il emportait, outre la copie de la lettre d'Orleton, de nombreuses preuves rassemblées pour convaincre de complot et de trahison la reine Isabelle, Mortimer, le comte de Kent et tous les seigneurs qui les entouraient. Dans un manoir d'Île-de-France, à une lieue de Rambouillet, Charles de Valois, abandonné de presque tous et reclus dans son corps comme déjà dans un tombeau, existait toujours. Celui qu'on avait appelé le second roi de France n'était plus attentif qu'à l'air qui pénétrait ses poumons d'un rythme irrégulier, avec par instants d'angoissantes pauses. Et il continuerait de respirer cet air dont toute créature se nourrit de longues semaines encore, jusqu'en décembre 1815.